Bonsoir et bon début de semaine. 21 morts, une cinquantaine de blessés et des dégâts matériels importants. C'est le bilan de l'explosion d'un dépôt d'armes ce week-end à Mujimaï dans la province du Kassai Oriental. Selon les autorités provinciales, la foudre serait à la base de cette catastrophe. Quelle analyse faire de cette situation? Que faire pour prévenir ce genre d'accident? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 27 janvier 2014. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Alphonse Ngoy Kasangi, gouverneur de la province du Kassai Oriental. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Mohamed Boulé, député national de l'opposition et cadre du MLC, il est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est général à la retraite. Mohamed Boulé, bonsoir.
Bonsoir. Je profite pour saluer aussi son excellence, monsieur le gouverneur Ngoy Kasangi.
J'espère qu'il vous a suivi. Et Jean-Jacques Hondo, analyste politique, expert en questions militaires. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées du Congo, Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Bonsoir Jean-Jacques Hondo.
Bonsoir Madame Côté, bonsoir gouverneur, bonsoir au général.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Pierre Chindano, Coco de Bukavu, Sud Kivu. Je crois que le gouvernement congolais devrait prendre des mesures adéquates pour déplacer les dépôts d'armes loin des grandes agglomérations afin d'éviter d'autres morts à la longue. Merci de nous suivre par son RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Au Kassai Oriental, l'inhumation des corps des victimes de l'explosion du dépôt d'armes et munitions de ce week-end a été reportée à demain mardi. L'annonce a été faite par le maire de Mbujimaï. D'après le maire, le report des funérailles est lié aux conditions d'ordre organisationnel, notamment l'identification de certaines familles dont les corps se trouvent à la morgue. Pendant ce temps, des rencontres préparatoires se tiennent à la mairie pour organiser l'inhumation des corps demain mardi. Plus de détails avec vous, Honoré Chilom.
Ils sont au total 21 personnes qui seront inhumées au cimetière moderne de Lubilanji. Le gouvernement provincial qui organise les funérailles annonce que les dispositions logistiques vont bon train pour enterrer ces victimes de l'explosion des Nyongolo avec honneur. Pendant ces temps, les familles des victimes sont inconsolables. Certaines sont déjà en plein deuil. Du côté des blessés, l'on note une amélioration de la plupart des cas. Une femme admise en réanimation à l'hôpital général des référents de Lipumba a repris conscience et a été transférée hier à Kinshasa avec 3 autres blessés jugés graves. Pour assurer la coordination de la administration de soins. Tous les autres cas sont orientés vers Bonzola, Cancélé et Notre-Dame de l'Espérance, 3 structures hospitalières ciblées et appuyées en médicaments essentiels par le gouvernement. Mbujimaï, Honoré Chilumba Wabantu, Radio Okapi.
Merci Honoré Chilumba. Alphonse Ngoy Kasangi, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Kassai Oriental. Monsieur le gouverneur, le bilan reste-t-il le même, c'est-à-dire 21 morts et une cinquantaine de blessés?
Certainement, le bilan fait état de 21 morts, à ce jour 54 blessés à notre niveau.
Alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé, monsieur le gouverneur?
Bien, notre version officielle, il y a eu une foudre, il pleuvinait le 24, vendredi le 24, il pleuvinait et selon la 5e région militaire, une foudre s'est abattue sur un dépôt secondaire de munitions et a causé une déflagration. Et il y a eu des projectiles, ainsi de suite. Donc voilà, ce sont ces projectiles qui sont tombés dans les maisons des gens, causant ainsi des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines qu'on vient de dénombrer là. Il y a aussi des maisons détruites et d'autres maisons qui ont connu des dégâts important.
Et donc, monsieur le gouverneur, le dépôt d'armes se trouve dans un camp militaire et tout autour de ce camp, il y a une cité.
Certainement. Donc, le camp brigade, et c'était un camp qui appartient à la société MIBA. Donc, c'était un camp que la MIBA disposait pour ses gardes miniers, qui est utilisé maintenant par la 5e région militaire. il est dans un quartier occupé par la population.
Et ce dépôt ne disposait pas d'antifoudre?
Bien, si la foudre s'est abattue, c'est que ça veut dire qu'il n'y avait pas de parafoudre. Mais même s'il y en avait, je crois que les parafoudres ne peuvent pas protéger à 100%. Il y a toujours des maisons qui ont des parafoudres, mais il y a toujours un pourcentage de risque. Donc c'est un accident.
Est-ce que, monsieur le gouverneur, ces dépôts d'armes ou de munitions ont été construits selon les normes?
Je ne peux pas vous dire que c'était construit avec les normes, parce que, comme au départ, ce n'était pas un dépôt de munitions, mais je dirais que c'est un dépôt de circonstances.
Ouais. Et donc, il fallait s'attendre à qu'un jour, tout pouvait arriver avec ce dépôt de munitions ou d'armes?
Bien, c'est arrivé, il y a une commission d'enquête qui est mise en place pour nous éclairer là-dessus, et je crois qu'à l'issue des travaux de cette commission, nous aurons effectivement à parler.
Alors, monsieur le gouverneur, avec l'incident qui s'est produit à Brazzaville, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de prendre des dispositions par rapport à ces dépôts d'armes pour éviter aujourd'hui ce qu'on déplore, la perte de plusieurs Congolais et beaucoup de Congolais qui sont blessés?
Nous regrettons, nous réitérons les condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées et qui ont connu cette épreuve. Mais à notre niveau, au niveau du gouvernement provincial, selon les rapports à notre possession, on avait essayé de faire quelque chose. Si on n'avait pas fait ça, je crois que les drames seraient très, plus importants que ce que nous avons vécu aujourd'hui. Il y a un stock important des roquettes, mais qui n'ont pas explosé. On avait pris des dispositions par rapport à ça. Mais malheureusement, on a déploré ce qu'on a déploré. Et c'est pas qu'on a voulu que ça se fasse ainsi, mais c'était un accident.
Et parlons des dégâts matériels, monsieur le gouverneur. Ces dégâts sont-ils importants?
Les dégâts matériels sont importants. À ce jour, il fait état de 86 maisons qui sont touchées, dont 17 touchées gravement. Où il y a soit c'est la toiture qui est emportée, ou soit ce sont des murs qui sont écroulés.
Alors qu'est-ce que le gouvernement provincial prévoit de faire pour toutes ces familles qui ont vu leur maison détruite? Ces familles seront indemnisées?
Oui, il y a une aide financière. Je dois informer la population que nous venons de recevoir une enveloppe venant du gouvernement de la République. Sur instruction du président de la République lui-même, cette aide est arrivée aujourd'hui. Tous les sinistrés auront cette assistance financière. Et même aussi les familles éprouvées recevront également une aide financière venant du gouvernement de la République.
Merci, monsieur le gouverneur. Mohamed Boulé, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du MLC. Vous êtes également membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous êtes général à la retraite. Comment vous analysez cette situation?
Merci, madame. Je voudrais saisir cette opportunité pour présenter mes condoléances les plus attristées à tous nos collègues députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux de la province du Kasaï-Oriental, ainsi que les gouverneurs des provinces, et de manière particulière aux familles éprouvées par ces douloureux événements. Je m'imagine comment leurs cœurs sont noyés de tristesse et surtout de chagrin. En cette question, nous disons que cet accident qui est arrivé n'était pas à souhaiter, mais une fois de plus, doit interpeller les hauts commandements militaires et le ministère de la Défense de manière particulière pour que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des forces armées et de la police nationale, bien entendu, qu'on en tienne compte pour les infrastructures à créer, de façon à mettre des installations logistiques adéquates pour prévenir et éviter ce genre d'incidents très douloureux en termes de dégâts collatéraux, des pertes en vies humaines et des dégâts matériaux.
Est-ce qu'on peut parler des négligences?
À ce stade, je ne peux pas me permettre de glisser sur le terme de la négligence parce que le gouverneur a dit qu'il y a une commission qui est en place et de cette commission, les rapports de cette commission, on saura. Mais ce qu'il faut dire, parce que la logistique, les approvisionnements des forces armées à travers le monde doivent répondre à certaines normes. Par approvisionnement, ça regroupe un nombre de matériel, jusqu'à 11. Les munitions, les armes, les artifices, les bombes, les mines, les explosifs font partie d'une classe spécifique qu'on appelle 5e classe. De même que les carburants, lubrifiants et graisses, 3e, qui présentent un danger permanent et pour lequel, au niveau de chaque garnison, des directives permanentes doivent être harmonisées, adaptées pour sécuriser, pour la mise en sûreté de ces installations jour et nuit. Ce qui est arrivé à Brazzaville devait également nous concerner parce que, croyez-moi, on me dit que c'est un ancien camp de la garde industrielle qui n'était pas préparé pour recevoir des troupes avec leur matériel. Et dans quelles conditions on les a exposés, dès lors que nous avons des spécialistes qui doivent veiller à la vie de ces matériels, de ces munitions, de ces armes, parce que chaque chose a sa vie. Il y a des munitions qui datent de très longtemps, de la Seconde Guerre mondiale, qui méritent d'être surveillées de près lorsqu'ils présentent des signes de danger. Évidemment, dans cette partie du territoire, que ce soit à Kananga, que ce soit à Bujimai, c'est une région minière, les coups de foudre ont toujours fait des dégâts. Je me rappelle, lorsque nous étions à l'académie militaire, nous étions ahuris de voir, à la suite d'un coup de foudre, l'eucalyptus prendre le feu à côté de l'académie militaire. Et d'autres, je ne suis pas superstitieux pour dire qu'il y a aussi des cas avérés, on vous dit non, celui-là est mort à la suite parce qu'il aurait volé, parce que ceci, cela, ça entre, je laisse cela dans nos coutumes. Ce qui est arrivé doit interpeller, comme je l'ai dit, à ce que le haut commandement militaire, dans le cadre de la poursuite des réformes, puisse renforcer les instructions, les directives, les ordres permanents pour sécuriser et éviter ce type de dégâts.
Merci honorable Mohamed Boulet, Jean-Jacques Wondo. Vous êtes analyste politique et expert en questions militaires. Vous êtes auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées du Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Peut-on parler de la responsabilité du gouvernement dans cette affaire?
Ben, on peut parler de la responsabilité des autorités, d'autant plus que le drame est survenu à un endroit où il est géré par l'autorité nationale. Mais laissez-moi d'abord préciser une chose. Hein. D'une manière générale, ce drame est symptomatique de la situation sécuritaire qui prévaut en Afrique noire. Et il n'est pas spécifique au Congo. Quand vous constatez, quand vous relevez tous les pays situés entre les désert du Sahara et le désert de Kalahari, vous constatez que la plupart des pays ont été confrontés, ou plusieurs pays ont été confrontés à des situations similaires. Et cela montre que la réforme du secteur de la sécurité, comme l'a dit le général Boulet tout à l'heure, doit s'inscrire dans une vision globale de la sécurité, une sécurité qui ne doit pas se limiter à la manière de faire la guerre ou de protéger l'État, mais aussi une sécurité qui doit permettre de sécuriser les biens, de sécuriser les personnes et aussi de travailler dans un cadre de la sécurité internationale. Et vous avez cité tout à l'heure le cas de l'explosion de pile à Brazzaville. Moi, je pense que cet événement qui a eu, qui a causé plus de 300 morts et plus de 2300 blessés et de nombreux sinistrés, dont plus de 1000 sans-abri et plus de 5000 logements détruits, avec des dégâts collatéraux à Kinshasa, devrait interpeller nos autorités pour mettre en place des dispositions pouvant éviter ce genre de drames puissent arriver dans les différents lieux où les munitions ou les explosifs sont entreposés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour revenir au Congo, ce n'est pas la première fois que cela arrive, d'autant plus que déjà en avril 2000, il y a eu une explosion à l'aéroport d'Engili avec qui a causé plus de qui a fait plus de 104 morts et des dégâts matériels. Et dans certains pays d'Afrique comme le Nigeria, il y a quelques années, il y a eu des incendies qui ont fait plus de 1000 morts. Et on peut citer ainsi certains pays comme Mozambique ou la Tanzanie où des explosions similaires ont été causées. Et on se rend compte que les pays qui sont confrontés à des problèmes de sécurité d'une manière générale, et ce sont des pays qui sont aussi confrontés à ce genre de situation, et d'où la première responsabilité incombe à l'autorité nationale.
Je vous pose la même question que celle que je pose au général Boulet. Si on peut parler des négligences à ce niveau.
La prudence doit être mise, mais quand on voit le fait qu'un dépôt d'armes ou de munitions puisse exploser, et je pense que quelque part il y a eu des mesures de sécurité qui n'ont pas été respectées ou qui n'ont pas été appliquées comme il faut. Et d'autant plus que quand on entend le gouverneur dire que voilà, c'était une ancienne de garde de la MIBA, on sait que l'entreposage et le stock des munitions et des armes doivent se faire dans des endroits prévus et construits à cet effet, qui doivent résister à des chocs ou à des changements de température ou à des événements comme la poudre. Or, ici, ce n'est pas le cas, mais aussi, il faut se poser la question sur la qualité des obus ou des roquettes qui ont explosé, parce que trop souvent, ce sont des éléments qui ne sont plus en état et qui, à moindre contact avec un élément extérieur, peut facilement exploser. Donc, quelque part, on peut quand même penser la thèse d'une négligence ou des non-respect de consignes, d'autant plus qu'actuellement, même la législation qui doit consigner tout cela n'est pas encore d'application au Congo.
Alors, Jean-Jacques Koun, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga, au Kasai Occidental.
Maître Adrien Ilobakwe Ispero à Kananga, au Kasai Occidental. Je me demande comment et pourquoi le gouvernement congolais ne pouvait-il pas tirer des leçons par rapport à ce qui s'était passé en Pila à Brazzaville, par rapport à tout ce qui vient de se passer en Mbujimayi. Ne peut-on pas conclure au jour d'aujourd'hui que c'est par inadvertance ou par négligence du gouvernement congolais que tout cela est arrivé?
Alors, je crois que vous avez l'air de répondre à la préoccupation de Maître Adrien Lobakwe et Jean-Jacques Koundou, à moins que vous ayez un petit autre élément à ajouter.
Oui, mais ce que je peux dire est que c'est une question qui est vraiment importante parce que il y a eu une négligence, mais là, dans une situation d'un pays qui est un pays en conflit ou en post-conflit, on sait que les dépôts d'armes doivent être les armes doivent être entreposées dans des endroits sécurisés. Et au-delà de cela, si on voit la situation qui s'est passée, par exemple, à Kinshasa le 30 décembre. Imaginez-vous que les Africains aillent dans des dépôts de munitions d'armes, les prendre des armes ou des explosifs, et notamment au camp Kokolo qui se situe pas loin de la RTNC. Imaginez les dégâts. Moi, je pense que quand on parle de la réforme des services de sécurité, on doit adopter une approche beaucoup plus large qui tienne compte aussi de la sécurisation des lieux où les armes et de l'amélioration même des conditions de travail et de vie des militaires. Donc, ça, c'est une responsabilité qui incombe en premier lieu au gouvernement.
Merci Jean-Jacques Wondo. Réagissant à cette explosion, le président du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC, en sigle, demande au gouvernement de prendre des dispositions pour éviter pareille catastrophe à l'avenir. Dans un point de presse tenu hier dimanche à Kinshasa, Vital Kamerhe a aussi invité le gouvernement à assurer une bonne prise en charge des blessés. On l'écoute au micro de Richard Junior Kamunga.
Alors que nous avions demandé lors des événements malheureux de Mbandaka, de la base logistique du camp Kokolo, que les dépôts d'armes et de munitions installés dans les centres urbains ou populaires soient affectés dans des sites appropriés et sécurisés loin des grandes agglomérations urbaines. Comment comprendre qu'un chef lié de province ne dispose pas d'infrastructures sanitaires capables d'accueillir et de prendre en charge sans blesser. Au regard de cette situation, nous demandons au gouvernement, avec insistance, de prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour assurer la prise en charge des familles sans abri, que les conditions d'accueil et de prise en charge soient d'ores et déjà réunies.
Monsieur le gouverneur, comment vous réagissez à ce point de vue de Vital Kamerhe qui s'étonne qu'une ville comme Bujima n'ait pas des structures sanitaires qui puissent accueillir ces blessés, tous ces blessés, disons, dû à l'explosion du week-end dernier?
Bon, la ville de Bujima dispose des structures médicales capables d'accueillir des blessés. Mais il faut cependant dire qu'il y a des cas qui nécessitent une expertise appropriée. Je crois que le président Kamerhe, de temps en temps, il se déplace aussi, il peut aller en Afrique du Sud, recevoir des soins, ou soit en Inde ou en Europe. Donc, voilà. Mais dire que la ville de Bujima ne dispose pas, parce que nous prenons en charge, il n'y a que 4 blessés qu'on a transférés à Kinshasa, dont leur cas a été jugé non à la portée des structures médicales de la place. Donc, mais le reste des cas, on les traite localement.
Oui, localement. Allez-y.
Il va également dire que quand on parle de la réforme ou des infrastructures à construire, la réforme, c'est un processus. Le gouvernement, au fur et à mesure qu'il dispose les moyens, il construit, donc on a construit dans la province orientale, à Kinshasa, au Katanga. D'une manière progressive, les constructions se poursuivent, des infrastructures qui peuvent, abriter les munitions et armes et autres. Donc j'ai dit que c'est un processus et la province orientale est également prévue.
Alors, on va prendre pour vous, monsieur le gouverneur, cette réaction qui nous vient de Bujima et au Kassai oriental.
Yalvani Kiyouk, placé dans Bujima au Kassai oriental. Le drame qui a endeuillé la ville de Bujima doit servir de stimulant aux autorités pour enfin prendre des dispositions utiles et conséquentes pour non seulement faire face aux catastrophes, mais aussi les prévenir, car la vie humaine est tellement précieuse. Cependant, la version de la cause de ce drame et les bilans donnés par le gouvernement nous laissent perplexes, car cela prouve à suffisance comment nos autorités minimisent ce drame et la vie de sa population. Or, cette dernière a plus besoin de soutien de son gouvernement pendant de telles circonstances.
Alors, monsieur le gouverneur, qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur qui estime que la version de la cause de ces drames, les bilans donnés par le gouvernement, laisse un peu perplexe? Il paraît que le bilan serait un peu plus lourd que celle que vous nous avez présentée.
Écoutez, nous n'avons pas l'intention de nous tromper nous-mêmes, étant donné que l'information que nous avons demandé à notre population de mettre à notre disposition les données, c'est-à-dire on a demandé à toutes les familles éprouvées ou les familles qui ont connu des dégâts matériels et autres, qui puissent se présenter devant les autorités compétentes, soit devant les chefs de quartier, soit devant les bourgmestres, le maire des villes, ainsi de suite. Donc les données que nous présentons officiellement sont les données que nous recevons de la même population. Je ne vois pas pourquoi on tromperait la population ou l'opinion en donnant des chiffres erronés. Donc ça vient de la même population. Pourquoi? Quand on a annoncé, quand l'événement venait d'avoir lieu, j'avais annoncé deux cas, j'avais dit que c'était provisoire. Et aujourd'hui, nous sommes à 21 décès, c'est-à-dire que ça progresse au fur et à mesure que nous avons les informations. Donc, c'est pas qu'on néglige ou on veut tromper. C'est pas ça.
Merci, monsieur le gouverneur, honorable Mohamed Boulé. Il faut réformer les secteurs de sécurité. On a suivi le gouverneur de province qui dit que la réforme du secteur de sécurité, c'est tout un processus. Ça fait plus de 10 ans quand même qu'on parle de la réforme du secteur de sécurité en RDC. Ce processus peut prendre combien de temps pour qu'on parle d'une vraie réforme?
Le processus, il est de longue haleine. Vous comprenez que dernièrement, au niveau de notre chambre, nous avons eu à examiner la loi de programmation pouvoir permettre la mise en œuvre de la réforme de la police nationale. Il est attendu, la loi de programmation en ce qui concerne les forces armées. À cette occasion-là, c'est lui qui, le gouvernement qui viendra présenter ce projet de loi pourra donner l'échéancier nécessaire pour dire première marche, nous ferons. Nous avons prévu une réforme qui s'étendrait sur 10-15 ans et la continuité. Je voudrais dire que ce qui est arrivé, évidemment, vient s'ajouter à d'autres drames que nous avons connus sur le fleuve de Congo. Les bateaux noyés, tout ça, même ici à Kinshasa. Les dépôts de munitions viennent aggraver, une fois de plus, cette situation. Les drames aériens. Souvenons-nous de ce qui s'est passé ici. Il est vrai que les uns et les autres disent qu'il faut des infrastructures d'accueil sanitaire pour pouvoir, pour une bonne prise en charge. Ils ont naturellement raison. Et les exemples sud-africains, par exemple, lorsque Feu Madiba est décédé, prise en charge totalement en Afrique du Sud, il n'est pas sorti. Et un autre exemple israélien, ce sont des exemples frappants qui doivent inciter notre pays pour que dans les projections à faire, dans les réformes sanitaires, le plan de réforme pour une mise en œuvre puisse tenir compte de cela pour que plus jamais, s'il y a des problèmes là-bas, que les provinces, que les nouvelles provinces qui seront naturellement créées puissent disposer de ces infrastructures plutôt que de faire des transferts, mais lorsque les conditions des transferts ne répondent pas, que les malades et les blessés ne peuvent pas supporter les voyages aériens, là, il est aussi condamné à la mort, peut-être entre le point de départ et la destination. Et donc, c'est là, c'est un travail de longue haleine, et aussi les assemblées provinciales ont leur part de responsabilité en termes de plans de développement de nouvelles provinces. Dans les textes consacrant et donc la décentralisation, cette tâche revient là-bas. Et quand on parle de ce plan de développement, à ce moment-là, les hauts commandements militaires feraient la coordination de toutes les infrastructures à disséminer à travers la République, à travers les structures qui sont les zones de défense, les brigades, les régions militaires jusqu'au dépôt, pour que ça soit intégrable, de façon que lorsqu'une province comme celle de Bujumbura, et là-dedans, les unités contiennent compte qu'il faut certainement éviter que de tels drames puissent endeuiller toute une ville. Il y a moyen, nous avons des espaces pour réaliser ces infrastructures, mais de manière coordonnée.
Alors, on va prendre rapidement pour vous, honorable Mohamed Boulé, cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
De Papi Kassema depuis Kinshasa dans la commune de Ndjili. Ce sont les enquêtes qui détermineront les causes de ces drames. Néanmoins, même si c'est la foudre qui a provoqué cette explosion, l'État doit assumer la responsabilité, non à cause de la faute qu'il a commise, mais plutôt pour défaut de prévoyance, car il aurait pu installer des antifoudres tout autour de ces dépôts de munitions afin de prévenir cet imminent danger.
Réaction, brève réaction.
Mais je dis, il a naturellement raison, mais ces mesures de précaution anti-foudre doivent aussi s'appliquer dans d'autres secteurs. Ici, par exemple, les dépôts importants de carburant, même les pharmacies où il y a des matières très flammables, il faut pouvoir prévoir tout cela et les surveiller dans nos aéroports, dans les stations de radio, de télévision ici. Nous avons l'expertise et donc le gouvernement doit s'approprier de cette question ici pour faire un problème national de façon que les mesures qui seront de mise et d'application puissent couvrir toute la République.
Merci honorable Mohamed Boulé. Que faire pour prévenir ces genres d'accidents? C'est la deuxième partie de notre émission. On participe au débat. Alphonse Ngoy Kassangi, gouverneur de la province du Kassai Oriental. Mohamed Boulé, député national de l'opposition et cadre du MLC. Il est membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Il est également général à la retraite. Et Jean-Jacques Rondo, analyste politique et expert en questions militaires. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé Les armées du Congo Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC. Jean-Jacques Rondo, que faut-il faire pour prévenir ce genre d'accident?
Oui, madame, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir en arrière par rapport à la situation de la réforme, parce qu'on a parlé de processus. Mais il faut se dire aussi que quand on est dans un processus, on détermine un plan. Actuellement, au niveau de FRDC, il y a un plan de réforme de FRDC de 2009-2025 à trois phases avec des échéances bien déterminées. Donc on ne peut pas dire que voilà, nous sommes dans un processus sans se donner des échéances de réalisation des objectifs qui sont définis. Or, rien que la première phase qui devait aller de 2009 à 2011, on constate que nous sommes en 2014 et beaucoup des objectifs qui étaient fixés pour cette période qui devait aller jusqu'à 2011 aujourd'hui n'ont pas été réalisés. C'est juste pour faire constater que quand on élabore des plans, il faut aussi se donner cette rigueur de pouvoir les évaluer assez régulièrement et les adapter en fonction de l'évolution de la situation. Mais pour revenir aux mesures à prendre, moi je pense que il faudrait d'abord s'attaquer aux causes profondes du phénomène de l'insécurité donc au Congo. Et on revient toujours à la situation donc de la réforme du secteur de sécurité, mais souvent des mesures qu'on peut prendre face à ce type de situation sont des mesures simples qui relèvent du bon sens. Du bon sens. Par exemple, il faut commencer par adopter les dispositions réglementaires législatives nécessaires et surtout les faire effectivement appliquer. Il existe un certain nombre d'instruments juridiques sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan international que les autorités pourraient activer pour pouvoir mettre en place des dispositions permettant de sécuriser un tant soit peu les dépôts d'armes. Il faut par exemple éloigner toutes les casernes militaires et les dépôts de munitions de toutes les villes et lieux d'habitation. Il faut par exemple pour les gens qui travaillent dans ces dépôts de munitions pouvoir faire l'identification des munitions dites dangereuses et non fiables et une surveillance et des vérifications adéquates de ces munitions assez régulièrement avec des inventaires qui sont faits assez régulièrement. La surveillance implique également que les personnels soient formés et disposent du matériel nécessaire pour tester les propulseurs ou tous ces engins qui ont des composantes chimiques et qui exigent une certaine expertise particulière. Il faut aussi renforcer les capacités des institutions de sécurité et impliquer les experts civils, les ingénieurs ou d'autres experts, par exemple de la MONUSCO, de l'EFEC, pour pouvoir accompagner aussi les FRDC dans la mise en place de ces mesures de sécurité, dégager des moyens techniques et financiers. Le général a parlé de la loi de programmation. On attend, on espère que la loi sera conséquente par rapport aux enjeux, aux défis pour la sécurité au Congo. Et mettre à la disposition des unités logistiques des FRDC des sources de connaissances et des questions techniques liées aux munitions dans le but de fournir des unités, à ces unités l'expertise et les conseils techniques appropriés pour le stockage sûr des munitions et l'élimination des stocks excédentaires. Parfois, on a des stocks qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, des stocks qui nous ont été donnés parce que ça a été déclassé dans des pays occidentaux. Et pourtant, ce sont des composantes chimiques qui sont sensibles à moindre variation de température et qui peuvent exploser à tout moment. Et la mise en application des directives techniques de l'ONU, par exemple, qui a élaboré un certain nombre d'éléments là-dessus. Et je veux quand même rappeler qu'en 2011, en juin 2011, peu avant les élections, la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne qu'on appelle ESSEC dans le cadre de la réforme de sécurité a doté à Kinshasa deux armureries, donc ce qu'on appelle deux dépôts d'armes au camp Kokolo et ailleurs, d'un dépôt d'armes répondant aux normes de sécurité. Mais le problème est qu'il y a eu que ces deux réalisations qui sont l'œuvre de la communauté internationale et de l'autre côté, il n'y a pas eu de mesures qui ont été prises au niveau du Congo pour prendre ça en main. On attend toujours que l'air nous vienne de l'extérieur, alors que nous pourrions nous-mêmes dire que voilà, c'est une question qui est très délicate, surtout la gestion des armes et des munitions, surtout dans un monde où les terroristes peuvent arriver partout, où le système de sécurité montre certaines défaillances. On a vu les gens qui sont arrivés jusqu'à la garde républicaine, l'état-major. On s'est dit qu'il faut appliquer des normes de sécurité et pouvoir construire des lieux sûrs qui permettent de pouvoir mieux sécuriser et mieux protéger.
Merci,
et mieux
Jean-Jacques.
Entretenir tous ces munitions.
Merci Jean-Jacques Rondo. Les auditeurs sont très nombreux à nous écrire. Amos Bissima de Bukavu Sud-Kivu dit ceci, il est souvent difficile, voire impossible, de prévenir une catastrophe naturelle, chose grave. Plus d'un Congolais doute de la version du gouvernement, parlons d'une foudre au Kasaï, car certaines sources font allusion à un coup monté présenté, mais s'il arrive que la version de la foudre soit juste après une bonne enquête, l'important c'est d'amener tous les dépôts des munitions loin de la population, partout en RDC, pour que pareil cas ne se reproduise. Robert Kabandani, aussi du Sud Kivu, dit ceci, comme solution, il ne faut pas stocker les armes en plein centre-ville, il faut les délocaliser, même s'il s'agit d'une foudre, pourquoi le gouvernement n'a pas pris d'avance les mesures des préventions en mettant des dispositifs anti-foudre. Monsieur le gouverneur Ngoyi Kasanji, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ces genres de catastrophes?
Je crois que même les délégués du gouvernement de la République qui sont arrivés sont de l'avis qu'il faut construire des infrastructures appropriées pour pouvoir abriter ces armes et ces munitions loin de la population. Et c'est ce qui sera fait dans les tout prochains jours. Mais je reviens un peu pour dire que ce qu'a dit Jean-Jacques Ondo, il a parlé de la programmation dans la réforme. J'ai dit que la programmation, il y a toujours aussi des contraintes. Il y a des contraintes, il y a des avancées significatives. Nous avons aujourd'hui une armée qui est capable de remporter une guerre, une armée tactique. Ce sont des avancées de la réforme. Mais des contraintes, ce sont ces guerres à répétition qui dérangent aussi les programmes de la réforme. Mais c'est en cours et le gouvernement veut vraiment que notre armée connaisse des avancées de réforme et même la police aussi. C'est ce que je voulais dire. Donc, nous sommes de l'avis qu'il faut vraiment construire des infrastructures appropriées et c'est même la décision du comité provincial de sécurité et ça sera fait.
Alors, monsieur le gouverneur Ngoyi Kasanji, je ne sais pas si vous êtes au courant, on apprend qu'il y a eu un incident ou un accident avec un engin non explosé. Il y a un monsieur qui a voulu manipuler cet engin et il a vu ses doigts partir ou couper par ces engins qui traînent dans la ville. Quel message vous pouvez adresser à la population de Mbujimayi, sensibiliser la population, je voulais dire, pour ne pas utiliser ces engins qui se trouvent un peu partout dans le quartier ou la cité où il y a eu cette explosion?
Pendant qu'on vivait ces drames, madame, j'avais fait un message qui passait en boucle, demandant à la population de ne pas toucher aux munitions ou à quelque chose de ce genre, parce que ça avait des conséquences. Il fallait attendre que les services compétents puissent en disposer. Mais je regrette ce qui s'est passé. Effectivement, il y a un papa et un enfant qui s'amusaient avec une munition qui voulait, je ne sais pas, avoir la poudre qui était dedans. Et voilà, malheureusement, ça a causé ces dégâts-là. Ils sont hospitalisés présentement.
Alors peut-être que vous pouvez passer ce message-là en Tshiluba pour être bien compris, monsieur le gouverneur.
Ndindomba kudi population yonse wa mu province wa Kasai Oriental anyaba bonso wa mvile wa Mbujimayi. Bwani bobu ba mona disage anyi roquette anyi chintu cha basalai balekela kabalengi to. Ba di ba expert ba di ba kumbana ba ku
Merci, monsieur le gouverneur, honorable Mohamed Boulay. Il faut délocaliser les dépôts d'armes loin des centres-villes. C'est parmi les solutions pour éviter ces genres d'incidents à l'avenir.
Ça doit se faire dans un cadre général qui couvre toute la République, qui couvre toutes les zones de défense, les régions militaires, en descendant jusqu'au niveau des garnisons. Mais le problème doit se faire à deux niveaux en ce qui concerne les forces armées. Nous avons les hauts commandements militaires sous que préside le chef d'état-major général pour réunir tous ces problèmes avec ses experts et de faire des projections, des plans à présenter pour avis au niveau du Conseil supérieur de la défense, qui est une donc structure politico-militaire. Une fois cet avis donné, l'affaire est portée au gouvernement pour entérinement, de façon que on puisse savoir qu'est faire pour que les forces armées trouvent également leur compte dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme. Il est bien entendu parce que les camps qui étaient créés à l'époque, ces camps sont connus avec ces dépôts. Mais à partir à un certain moment, beaucoup de ces endroits se trouvent donc intégrés dans le cadre urbanisme d'une province ou d'un grand centre urbain donné. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est des projections pour le déplacement, pour que les forces armées aient des domaines militaires appropriés ou les aires spécifiques des logistiques, de l'administration, des loisirs, des écoles, même des banques et des terrains de jeu puissent être à l'intérieur, mais toutefois, en ce qui concerne ces engins, j'ai dit les munitions, les explosifs et tout ça, et les carburants, doivent avoir des airs loin pour qu'en cas de pareil incident, qu'il n'y ait pas beaucoup de victimes, comme c'est le cas que nous avons connu, que mon estimé collègue Jean-Jacques Wando a décrit aussi, a fait le topo. En ce qui concerne les engins, nous ne sommes pas seulement concernés, pas les seules victimes de ça. Récemment ici, j'ai suivi dans une émission à la télé, dans un pays européen, où la Seconde Guerre mondiale a fait rage, où quelqu'un en train d'arranger son jardin a trouvé un engin. Le comportement à faire face à ces engins non explosés, c'est de ne pas les toucher et de vite porter l'affaire, si pas au commissariat de police la plus proche, pourquoi pas à l'autorité militaire pour que les spécialistes, les renouvelateurs des munitions viennent étudier et neutraliser ces engins et lui éviter les dégâts que ça puisse faire lorsqu'on les manipule sans droit.
Alors merci honorable Mohamed Boulay. Il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Je vais vous demander déjà de conclure Jean-Jacques Wando. Un conseil aussi peut-être à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment, surtout ceux de Mbujimayi et qui ont connu ce drame le week-end dernier ou ce week-end par rapport à ces engins non explosés qui vont retrouver dans la ville.
D'abord, le conseil est que c'est à la prudence et chaque fois qu'il voit quelque chose de suspect, qu'il s'en réfère aux autorités ou à la police. Mais au niveau des mesures qu'on peut prendre, les mesures ne doivent être prises seulement au niveau des autorités nationales, mais aussi au niveau des autorités territoriales, notamment en veillant à ce que des constructions anarchiques ne puissent pas être construites autour des campements militaires. Je pense par exemple à Kinshasa, on parle d'un camp du quartier Jérusalem, il faut voir comment les gens s'entassent autour, ou à Goma avec le camp Poutine. Mais il faut aussi que les autorités mettent en place des structures de coordination ou régulièrement des tests et des exercices de simulation d'explosion sont faits pour voir comment l'aide, le secours et la gestion des crises peuvent être coordonnées. C'est très important et cela permet aussi à la protection civile, si on a les pompiers et consorts, puissent travailler main dans la main avec les autorités politiques et les autorités civiles. Voici en gros ce que je peux donner comme élément.
Merci Jean-Jacques Wando. Je considère cela aussi comme votre conclusion. Monsieur le gouverneur, vous allez aussi conclure. Vous avez suivi la conclusion de Jean-Jacques Wando qui pense que les autorités doivent s'impliquer aussi ou sensibiliser la population de ne pas construire ou de ne pas lotir le long autour des camps militaires ou des dépôts d'armes.
Tout à fait. Ce sont les dispositions que nous avons prises pour éviter à notre population de revivre les drames de ce genre, les barrières, les décès, les destructions des maisons et autres. Pendant que nous pleurons nos morts, nous sommes en train de pleurer nos maisons détruites et autres. Nous rassurons notre population que pareille chose ne pourra se répéter. Nous prenons toutes les dispositions pour lui éviter de vivre des drames de la sorte. Et j'en profite pour saluer l'honorable Mohamed Moulay et Jean-Jacques Wando, avec qui nous sommes en ligne. Je les salue pour la pertinence de leur intervention et l'ensemble des auditeurs de la radio Okapi.
Merci, monsieur le gouverneur. Honorable Mohamed Boulay, en 30 secondes, votre conclusion.
En 30 secondes, j'ai dit que cette situation doit interpeller tout le monde au niveau de l'armée, au niveau du gouvernement, pour que plus jamais cela n'arrive. En même temps, renforcer les mesures de sécurité, les services pompiers doivent être opérationnels partout, dans tous les coins. Il y a ces dépôts de munitions, les carburants et tout ça. C'est important pour que pareil puisse se
reproduire. Merci, honorable Mohamed Boulay. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais.